Aujourd'hui, je reçois Elisa et Lucie, membres de l'association Fugue étudiante, une association parrainée par l'Orchestre National de Bretagne pour, je cite, « faire entrer la musique classique dans le quotidien ». Cet entretien, c'est l'occasion d'évoquer votre actualité puisqu'aujourd'hui, lundi 12 et ce pendant 3 jours, se déroule l'édition digitale de cette année 2021. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Alors avant d'évoquer en détail cette édition un peu particulière du festival Fugue étudiante, racontez-nous un petit peu l'histoire de ce beau projet dont l'objectif est, et là je vous cite à nouveau, d'engager un rapprochement entre le monde estudiantin et celui de la musique classique.
Le projet, il est né en septembre 2020 et il a été initié par le souhait de l'Orchestre National de Bretagne de vouloir acheminer la musique classique jusqu'aux étudiants, qui est jusque-là un public qui n'a pas forcément été privilégié. Déjà parce que la musique classique est considérée souvent comme un domaine assez codifié. Donc le projet, il est né dans un cadre académique, donc celui de Sciences Po Rennes. Mais ensuite, nous, donc on est 6 étudiantes, avons décidé de s'emparer un peu plus de ce projet parce qu'on s'est dit que le fait qu'une institution culturelle qui est justement connue pour sacraliser un peu un type de musique s'adresse directement à des étudiants, on a trouvé ça très cool et on s'est dit que nous qui étions justement un non-public parce que la musique classique, c'est pas le style de musique qu'on écoute le plus, même si on aime bien. Cette initiative nous a paru vraiment intéressante. Et ainsi, on a décidé de créer l'association Fugue étudiante et de se créer une véritable identité à la fois visuelle et en même temps complète de par la création d'un site web, de réseaux sociaux.
Et je rajouterais juste qu'on est 6 dans l'équipe et qu'on n'a pas forcément d'atome crochu avec la musique classique du tout. Donc il y en a deux d'entre nous qui ont fait une formation classique, mais on est 4 et notamment avec Lucie qui n'y connaissons presque rien à la musique classique et on voulait justement montrer qu'on n'avait pas besoin de connaître plus que ça la musique classique pour l'apprécier puisque c'est une musique qui permet de ressentir des émotions fortes et qui est plaisante même quand on n'y connaît rien.
Alors évidemment, cette année, le contexte sanitaire empêche la tenue habituelle de tous les événements qui rassemblent et qui accueillent du public. Vous avez donc décidé, comme beaucoup d'autres structures associatives, de permettre malgré tout la tenue de l'événement en proposant une édition 100% virtuelle. Racontez-nous un peu comment s'est prise cette décision, quand même lourde de conséquences et de travail. Comment on fait concrètement pour mettre en place un tel projet entièrement de manière numérique ?
C'est pas aller de soi, parce que presque au dernier moment, jusqu'au mois de janvier, on pensait pouvoir faire des événements physiques quoi, et dans la réalité. Et il s'est avéré que le contexte ne s'est pas amélioré et on a donc dû changer notre fusil d'épaule assez rapidement. Et ça a été vraiment une organisation, fallait prendre le pied assez rapidement. Et par exemple, pour tout ce qui était, je pense, au pôle partenariat, tout a été remis en question parce qu'en fait, le travail, c'était justement d'aller au contact des salles, des gens qui pourraient, et puis des financeurs aussi, des sponsors. Et en fait, si l'identité de l'événement change complètement, puisque d'une édition qui se passe dans la réalité et une édition qui se passe en ligne, c'est pas la même chose. Et tout ça, ça a dû, pareil, être... Il y a plein de choses qui ont été abandonnées. On a dû essayer de retrouver justement d'autres personnes qui avaient d'autres compétences. Ce qu'on fait là en ce moment, ce sont des captations. On a dû trouver des personnes pour faire un live, ça c'était pas prévu. Et d'un côté, ça nous a permis quand même d'apprendre et d'appréhender bien mieux, je pense, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est captation, tout ce qui est montage, qu'on connaissait pas du tout. Et c'est très bien, mais c'est vrai que ça s'est fait très rapidement, ça a été beaucoup de travail.
Oui, en fait, en septembre, on avait pris le parti optimiste en disant on ne prévoit que pour quelque chose en présentiel. Donc, on avait fait nos partenaires, nos subventions, donc nos budgets, on les avait fait par rapport à ça. Et c'est l'Orchestre National de Bretagne qui nous a dit en janvier, les filles, il va falloir peut-être penser à passer en tout distanciel parce que ça s'arrange pas et c'est aussi leur quotidien, eux, de leur côté, de devoir s'adapter à ce contexte du jour au lendemain. Mmh. Donc ils nous ont aidés dans cette optique-là en nous donnant des pistes pour recréer en fait une programmation. On a recréé toute une programmation à quatre mois de l'événement.
Ce festival donc de musique classique en lien avec le monde étudiant a un but un peu global, on va dire, celui de démocratiser la musique classique. Derrière, vous dites 3 concepts que sont l'initiation, l'adaptation et l'accessibilité. Comment vous faites concrètement à travers le festival pour mettre en œuvre ces trois concepts, pour remplir votre mission en quelque sorte? En tant que jeunes étudiantes et passionnées ou moins passionnées de musique classique, comment on démocratise au mieux cette musique classique orchestrale?
Eh bien, c'est tout l'enjeu du projet en fait. Et c'est vraiment intéressant parce que nous-mêmes, comme on l'a évoqué précédemment, on n'est pas férus de musique classique, même si on apprécie. Et donc en fait, on a essayé de vulgariser cette musique sans pour autant... C'est vraiment toujours un équilibre à trouver parce qu'à la fois, il faut conserver tout... C'est vrai que c'est une musique qui a une grande histoire. Il y a des musiciens derrière qui font un travail énorme. Et à la fois, il faut transmettre ça, donc ce travail et la beauté de cette musique. Et en même temps, il faut trouver toute une forme qui soit adaptée. Par exemple, ce qu'on fait sur les réseaux sociaux et ce qui marche plutôt bien, c'est qu'on essaye de montrer que la musique classique est présente partout, en fait, mais on l'oublie vraiment. Et qu'on fait plein de petits... par exemple, plein de petites stories où on met un petit coup de cœur de manière vraiment... où on travaille vraiment beaucoup la communication et on se dit bah ça va appeler le regard, ça va être intéressant. Donc tout ce travail de communication qui est très important, je pense, dans le projet et pour justement réussir une certaine démocratisation. Et aussi, c'est aussi l'idée de pointer du doigt le fait que la musique classique est présente à des endroits où les gens l'oublient, par exemple dans les publicités, par exemple dans les films. Et ça, on le fait aussi, on a pareil une petite rubrique qui s'appelle Le Classique et on essaye de recenser plein de petits... format et dans plein de petits domaines où la musique classique est présente et où parfois c'est un peu oublié pour essayer de dire aux gens mais en fait oui vous connaissez, en fait oui vous pouvez apprécier et il n'y a pas besoin d'être pétri d'érudition dans ce domaine pour apprécier ça quoi.
D'ailleurs donc en cette année particulière évidemment tout le monde le sait, est-ce que ça n'a pas été compliqué de proposer, vous l'avez dit un petit peu en amont, je me doute que si, notamment pour pouvoir proposer les volets initiation, accessibilité. Cette édition digitale, en quoi elle est différente? En quoi elle contraste avec ce qu'aurait pu être une édition classique en présentiel, en temps normal?
L'édition de départ, elle était axée du coup sur l'accessibilité et l'initiation. À travers, en fait, mettre la musique classique quelque part dans la rue. On voulait aller dans des bars, on voulait aller à l'extérieur pour que ce soit accessible, littéralement parlant. Et l'initiation à travers des ateliers avec les musiciens, pour créer un échange entre les musiciens et les étudiants qui l'auraient souhaité. Donc, on continue quand même là-dedans, puisque l'accessibilité, elle est là, puisqu'on fait des événements complètement gratuits qui sont sur Facebook, YouTube et Twitch même. Et aussi, l'initiation, on l'a pas mis de côté, puisqu'on espère, grâce notamment au live de mercredi, que les gens pourront poser leurs questions et qu'on pourra les transmettre aux musiciens. On avait fait aussi une boîte à questions sur Instagram avec toutes les questions que pouvaient se poser nos followers. Et on les a posées aux musiciens pendant les captations et on a eu quelques réponses tout à l'heure et on en aura aussi demain. Donc voilà, on a fait en sorte de pas tirer un trait sur nos valeurs et je pense qu'on y arrivait quand même.
Ouais, et je voulais rajouter que oui, en fait, l'idée reste la même, mais en même temps, elle évolue complètement puisque à la base, c'était censé être notamment représenté par le lien physique entre les gens, l'accessibilité, tout ce que tu as dit. Mais le fait qu'on fasse maintenant tout ça sur les réseaux, c'est aussi une manière d'être accessible dans le sens où tous les jeunes sont sur les réseaux tout le temps, peut-être même un peu trop parfois, mais on essaye justement d'être de mettre en valeur une communication qui puisse à la fois évoquer quelque chose un peu ludique, appréciable pour les gens qui passent parfois, les étudiants, ils passent leur vie en cours via les réseaux, via en ligne. Quoi. Tout ça pour dire que cette accessibilité-là, même si elle est plus physique, elle est toujours ce que tu disais dans nos valeurs et on essaye de garder ça vraiment important.
En découle de ces trois concepts, trois objectifs un peu principaux, dont celui donc de faire découvrir ou redécouvrir la musique classique, mais aussi de s'adapter aux penchants et préférences des étudiants et des étudiantes. Donc, tu l'as dit, ça passe évidemment par les réseaux sociaux notamment. Comment vous décrivez, vous qui n'êtes plus ou moins passionné de musique classique, comment vous percevez cette relation qu'il peut avoir entre les jeunes, les étudiants et la musique classique? Quelle proximité, plus ou moins affinité, il témoigne vis-à-vis de ce registre musical qui suscite parfois encore beaucoup de préjugés ou de fausses idées.
Je pense quand même déjà qu'il faut mentionner le fait que les étudiants, c'est pas un groupe homogène et que, évidemment, il y a certains étudiants qui vont beaucoup apprécier la musique classique, d'autres qui vont beaucoup s'y connaître et d'autres qui ne vont pas connaître du tout, qui vont être, qui vont avoir des préjugés et penser vraiment musique classique. La musique classique, c'est pour les vieux. D'ailleurs, il y avait eu toute une initiative autour de ça pour dire que non, évidemment, ce n'est pas pour les vieux. Mais je pense que cette relation-là, elle n'est pas existante tout le temps, parce que sinon, l'Orchestre National de Bretagne n'aurait pas eu cette initiative-là d'aller conquérir ce public étudiant. On sait bien que c'est quand même un non-public. Mais après, il y a aussi le fait que les jeunes ne se déplacent pas tout le temps pour faire des activités culturelles. Mais je pense que ce qu'on avait envie de montrer en prenant la musique classique, c'était de rendre les choses plus simples, en fait. De se dire... juste, vous pouvez prendre 30 secondes et écouter notre petite story. Ça va être une musique qu'on espère que vous apprécierez. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de cérémonial. On n'amène pas les gens forcément en costume noir et aller à l'opéra ou aller dans une salle de concert qui va pas forcément les mettre à l'aise. C'était juste vraiment se focaliser sur le fait que ça peut être simple et si vous le pouvez apprécier, c'est un peu leur donner les clés, leur dire allez-y. Et après, si vous aimez pas, vous aimez pas. Mais voilà.
Oui, et avant le projet, on avait fait une enquête auprès justement des étudiants rennais sur Internet et on avait eu quand même plus de 400 réponses. Et on avait bien vu que, au-delà de tous ces codes qui pouvaient paraître un peu, qui pouvaient un peu faire peur et qui donnaient pas envie d'aller écouter de la musique classique et d'aller à l'orchestre, ils étaient bien conscients, les étudiants étaient bien conscients, les jeunes en général étaient bien conscients que c'était une musique qui permettait de ressentir des émotions fortes qui pouvaient aussi être reposantes et qui prenaient aussi plaisir à l'écouter. Donc on est parti là-dedans en espérant leur plaire.
Puis j'aurais aimé rajouter aussi, c'est juste une anecdote, mais c'est une amie avec qui j'avais parlé une fois de musique classique. On était dans sa voiture et je lui ai dit « Mais toi, t'aimes bien le classique ?» Et vraiment, elle m'a regardée, elle m'a dit « Le classique, c'est le truc avec les violons, là ?» Et ça avait été vraiment sorti comme ça et ça m'avait fait rire. Et peu de temps après, elle m'avait dit qu'une de ses musiques préférées, c'était une BO de film qui était de la musique classique. Et donc souvent, c'est vraiment sur cet espace-là parfois d'incompréhension et d'ignorance qu'on a vraiment envie de travailler.
Vous venez d'en parler, puis je le disais en introduction, Fugue étudiante est soutenue et parrainée par l'Orchestre National de Bretagne. Comment elle fonctionne, cette collaboration, ce beau partenariat avec une institution quand même des plus réputées ?
Alors, c'est l'Orchestre National de Bretagne qui a initié, qui en voulant se rapprocher des étudiants, s'est rapproché de Sciences Po Rennes pour travailler avec les étudiants. Et comment il fonctionne Alors surtout dans cette période sanitaire, on a eu un peu de problèmes parfois pour se comprendre, pour se réunir en fait et pour parler du projet, parce qu'ils ont eu un travail phénoménal à faire avec toutes les mesures sanitaires, les couvre-feux, confinements, etc. Donc on a eu quelques difficultés au départ et puis ensuite ils nous ont fait vraiment confiance du début à la fin, donc que ce soit pour les événements, les événements en eux-mêmes, après toute la communication. Ils ont été vraiment un appui pour nous, un soutien. Ils nous aident aussi dans notre ligne, en quelque sorte. Ils nous ont aidés quand on a dû passer en digital. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'ils ont l'expertise que nous, on n'a pas. Et nous, on a une candeur face à la musique classique qu'eux, ils n'ont plus. Et c'est aussi ça qui est recherché, en fait, dans ce partenariat.
C'est vrai que ça a été intéressant de pouvoir... collaborer avec cette structure culturelle, notamment parce que, comme je le disais au début, on ne connaissait pas vraiment tout ce côté professionnel, en fait. Ça a été une immersion. Et c'est vrai qu'ils nous ont vraiment ouvert les portes, en fait. Et ça nous a permis de comprendre, je pense, plus généralement comment fonctionnait une institution culturelle, de comprendre que parfois la communication, ce n'est pas forcément évident non plus. Mais c'est vrai que ça a été plutôt formateur, en fait, de pouvoir être accompagné. Et à la fois, ils nous laissaient carte blanche. En même temps, ils nous aidaient dès qu'ils pouvaient nous acheminer vers eux, des professionnels qu'ils côtoyaient aussi, qui pouvaient aussi nous aider dans notre édition en ligne. Ils le faisaient. Donc non, ça a été plutôt formateur.
Bon, si on évoque maintenant un petit peu le programme quand même de cette édition numérique. Donc celui-ci propose 3 journées de découverte musicale, aujourd'hui lundi, mardi et mercredi. Donnez-nous envie, sans tout dévoiler bien sûr, quel est le programme? plutôt mystérieux de prime abord. Je pense notamment à ces fugues matinales. Le programme de ces 3 jours de musique classique qui s'appuie sur plusieurs réseaux sociaux, on en a parlé. Dites-nous-en un peu plus.
Alors, du coup, les matins sont consacrés justement à ces fugues matinales qui sont en fait des petites vidéos de notre conception, hein, puisque c'est nos camarades qui sont derrière les caméras et au montage, pour rendre accessible un instrument insolite. Donc aujourd'hui, c'était l'orgue. Je vous invite à retourner voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Demain, on va essayer de démonter les clichés autour de l'opéra. Et mercredi, donc, ce sera Aliénor qui expliquera en fait une fugue. Une fugue, une de Béla Bartok. Donc voilà, donc ça ces petits contenus-là qui sont très courts, qui durent 5 minutes. Donc si vous n'avez pas le temps, c'est parfait. Et on essaie vraiment de rendre accessible tout ce monde de la musique classique. Et aujourd'hui sur l'orgue, c'était vraiment intéressant de le faire, d'une part, parce que c'est nous, avec Lucie, qui avons filmé. Clara qui est notre présidente et qui joue de l'orgue. Et c'était vraiment impressionnant de voir tout ça, de voir quelqu'un qui joue assez facilement de cet énorme instrument cette jeune femme toute menue qui fait un bruit monstrueux avec cet orgue. C'était vraiment intéressant à voir. C'était vraiment chouette. Donc ça sera pour les fugues matinales. À 14h, on a des concerts inédits de l'Orchestre National de Bretagne, donc qui ont été captés en amont. On a L'égalité de Samuel Strouk et Nuit d'été d'Hector Berlioz. Et à 17h, c'est en fait des interludes musicaux, on a appelé ça comme ça. Et c'est les captations de concerts de musiciens de l'Orchestre National de Bretagne, avec toujours les réponses aux questions que se posaient nos followers sur la vie des musiciens, la vie de l'orchestre. Et on apprend beaucoup de choses très intéressantes, notamment le lien du musicien à son instrument, qui est un peu particulier. Je vous laisserai aller voir les vidéos. Et toute la vie dans un orchestre, on apprend aussi des fun facts sur la vie de l'orchestre, mais aussi des moments un peu rigolos qu'ils ont pu nous raconter, que vous retrouverez dans nos vidéos.
Oui, je voulais ajouter le fait qu'on ait pu passer ces moments assez privilégiés avec les musiciens. C'est vraiment intéressant parce qu'on les a aussi posés dans un cadre qui était le nôtre et eux, ils se sont adaptés au truc. Et en même temps, ça n'a vraiment rien de guindé. Au contraire, ils sont très à l'aise et ils se laissent vraiment aller. Et c'est vraiment un joli moment, donc je vous conseille d'aller voir.
On a fait au mieux pour essayer de transmettre ce qu'eux, ils nous avaient transmis. Et on espère que ça vous plaira. Et bien sûr, c'est le clos de notre programmation, c'est le live qui aura lieu mercredi avec les musiciens de l'Orchestre National de Bretagne, mais aussi des étudiants du Pont Supérieur, le tout capté par les étudiants de l'ESRA. Et donc voilà, on aura des quatuors et des quintettes, ça va être vraiment bien. Il y aura beaucoup d'instruments, beaucoup de musiciens, et on espère que ça vous plaira.
Tu parlais justement de transmission, on pourra terminer là-dessus. Si on parle maintenant un peu de votre perception et votre sentiment individuel à toutes les deux, quel est maintenant, depuis toute cette élaboration, cette organisation, tout le fonctionnement de ce festival, quel est à vous deux votre histoire, votre lien avec cette musique classique, cette musique d'orchestre ?
Bien, pour ma part, et c'est assez étonnant, je pense que ma vision de la musique classique n'a pas tellement changé parce que je l'appréciais déjà beaucoup. Je ne suis pas savante dans la matière, mais j'en écoute souvent parce que ça me détend, que ce soit pour travailler ou juste pour ressentir des trucs, quoi. Et donc j'en écoute beaucoup, et ce qui est assez marrant, c'est qu'à l'intérieur de ce projet-là, on était tellement prise dans le travail et dans l'organisation qu'on oubliait de temps en temps la musique. Et heureusement que on postait souvent des vidéos, des posts qui rappelaient bien que c'était pour ça qu'on le faisait. Et quand on a pu enfin rencontrer les musiciens et faire les captations, c'est vrai que ça a été un peu une bouffée d'air en se disant « Ah ouais, on a quand même fait ça pour ça, c'est agréable de rencontrer... des gens qui vivent pour la musique, et cet amour de la musique a été quand même... Moi, j'ai beaucoup ressenti pendant les captations, je ne sais pas pour toi, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et donc, je dirais que je pense que j'ai plus compris sur le quotidien d'un musicien, compris aussi comment fonctionnait un orchestre. Je ne dis pas vraiment avoir tout saisi, mais je pense que j'en connais un peu plus. Mais c'est vrai que ma vision de la musique classique n'a pas plus changé de ça. Je l'aime toujours autant, mais de manière assez intime, finalement.
En fait, on avait des visions différentes chacune de la musique classique. Je vois par exemple, moi je l'écoutais surtout pour me calmer, pour m'apaiser, pour me reposer. Et dans l'équipe, il y en a qui au contraire, c'est pour exploser, pour...
Exulter.
Voilà. Et ça a été intéressant de voir comment une musique classique qui est un genre de musical qui est énorme, comment on pouvait chacune s'apporter... notre propre vision. Et on, oui, à travers ce projet, on s'est nourri chacune des goûts des autres. Mmh. Et je pense que oui, bah moi je pourrais dire quand même que je me sens plus proche de la musique classique aujourd'hui, parce que j'ai découvert des pans de la musique classique que je ne connaissais pas, tout en, oui, en, comme tu disais Lucie, c'est en, avec ce rapport beaucoup plus intime à la musique classique maintenant. Tous les jours on était sur de la musique classique, que ce soit pour du montage, pour des captations, pour des stories, pour des revues de presse, parce qu'on a fait ça aussi. Donc oui, toute cette année on a été à fond dans la musique classique, mais vraiment dans la pure musique. J'ai pas appris plus sur l'histoire de la musique classique, mais j'ai appris à mieux apprécier la musique en elle-même.
Merci beaucoup Elisa et Lucie d'être venues dans l'Inattendu nous présenter le programme de cette édition digitale 2021 du festival Fugues étudiantes. Je vous laisse peut-être rappeler à nos auditeurs et auditrices où retrouver tous les événements et les informations sur les réseaux sociaux.
Bien déjà, merci à vous de nous avoir accueillis déjà dans vos locaux. Et pour nous retrouver... Donc c'est vraiment Fugues étudiantes partout, sur Instagram Fugues étudiantes sur Facebook, et on a aussi donc un site web et une chaîne YouTube, et pour le live il sera diffusé sur Twitch.
Sur Twitch et sur Facebook.
Et sur Facebook. Oui. Okay.
Eh bien le message est passé, merci encore pour votre venue à SILAB et bonne continuation dans ce festival qui a commencé aujourd'hui même.
Merci.
Merci beaucoup.